C'est Sébastien Piocelle qui est avec nous. Salut Sébastien.
Bonsoir à tous.
Et merci d'être là. C'est cool de venir après cette belle victoire en Coupe d'Europe. Alors, même si c'est l'Europa League, c'est une Coupe d'Europe quand même. Et ça fait plaisir quand même de voir le FC Nantes revenir sur la scène européenne.
Bien sûr, mais il ne faut surtout pas minimiser. Ce n'est pas que l'Europa League, certes, mais c'est une Coupe d'Europe. Quand on voit les équipes qui évoluent dans cette compétition, les derniers vainqueurs, et puis surtout pour Nantes, hein, qui a dû attendre 18 ans pour retrouver une Coupe d'Europe, forcément, c'est un moment magique. Et puis, rien de plus beau aussi de démarrer à la Beaujoire avec une victoire et un scénario incroyable avec ce but quasiment à la dernière seconde.
Ouais. La Coupe d'Europe, ouais, c'est une motivation différente. Ça n'a rien à voir avec le championnat. C'est comme ça aussi que tu le ressens?
Oui, bah, complètement. De toute façon, c'est deux compétitions différentes. Le niveau, le curseur augmente. On peut se servir aussi de cette compétition pour donner un élan aussi au championnat. On voit surtout cette année avec la Coupe du Monde en fin d'année civile que c'est des matchs vachement rapprochés, donc un calendrier important. Et c'est toujours bien de commencer par une victoire, même s'il y aura un match à Lorient qui me semble très important dès dimanche.
Ouais, tu suis un petit peu le début de saison du FC Nantes là, des matchs en championnat.
Oui, déjà, j'ai toujours suivi Nantes forcément depuis que je suis parti, même si comme beaucoup de supporters, par moments c'était très compliqué à regarder et à suivre. Ensuite, de part aussi mon boulot à RMC, donc je regarde beaucoup de matchs, donc ou des fois en direct ou en replay ou sur des multiplex où c'est un peu plus dur à suivre comme je vais le faire dimanche là à Lorient. J'ai pas pu voir le match hier parce que je commentais en même temps, j'étais à Belgrade pour Monaco, enfin Étoile Rouge Monaco. C'est moi qui vais commenter Karabakh Nantes mais de Paris la semaine prochaine. Donc je reverrai le match le match d'hier certainement lundi, mais c'est vrai que moi j'ai vu les buts, j'ai vu l'ambiance et je vois surtout un état d'esprit, un élan finalement qui a pas été coupé par rapport à la saison dernière. On avait de quoi un petit peu avoir un peu peur par rapport au départ de Kolo Muani, et finalement il y a quasiment tous les joueurs 4 qui sont restés et c'est vrai que c'est de bon augure pour toute la saison, même si j'ai un petit bémol sur l'effectif au niveau qualitatif, pas tant quantitatif, mais pour jouer sur les deux tableaux et voilà. Donc en tout cas c'est très très bien d'avoir gagné ce match là hier. Je le répète, le match de dimanche, pour moi, il est très important.
Ouais, il va être capital, c'est sûr. On va voir. Ça va être un bon indicateur aussi par rapport à la saison et cet enchaînement de matchs. C'est sur RMC, justement, il disait que on retrouve un petit peu dans cet effectif, dans cette équipe, qu'elle est un peu l'image d'Antoine Comboiré. C'est comme ça aussi que tu le ressens?
C'est sûr que... en termes de caractère, d'état d'esprit, de volonté de rien lâcher, on peut rien reprocher à Antoine et à son groupe, ça c'est une certitude. Après, au niveau du jeu, moi je trouve que c'est intéressant aussi, c'est un peu plus direct qu'à une certaine époque, mais on sent qu'il y a beaucoup de volonté d'aller vite de l'avant dans les phases de transition. Ce qui m'a plu aussi, c'est que depuis quelques matchs, les recrues offensives marquent, et ça pour la confiance. C'est hyper important. Sissoko aussi qui est revenu hier dans le groupe. Donc voilà, tous les voyants sont au vert. Bon, après, il alterne aussi en termes de système de jeu. J'ai beaucoup aimé Appia aussi à droite. C'est vrai que c'est un joueur peut-être qui correspond mieux dans une défense à 4 à droite plutôt que dans une défense à 5 où il est peut-être moins piston. Mais comme il n'y a pas vraiment pour moi l'équivalent d'un Quentin Merlin à droite, donc peut-être qu'il faudra jouer à 4 et comme ça on aurait un défenseur à droite qui serait costaud à l'image de Appia.
Ouais, c'est vrai qu'on en parle souvent dans le space du dispositif qu'utilise Antoine Comboiré. Alors c'est vrai que l'année dernière ça fonctionnait très bien avec les flèches qu'il y avait devant et notamment Kolo Muani, tu en parlais tout à l'heure. Là cette année on a la sensation peut-être qu'effectivement sur une défense à 4 c'est un peu plus régulier, en tout cas dans les derniers matchs. Tu parlais de ce rôle de piston à gauche. Bon, Quentin Merlin maintenant fait l'unanimité. À droite, pour toi, de ceux qui ont joué sur ce poste de latéral droit, c'est Denis Sapia qui se démarque un petit peu plus.
Ouais, mais plus dans une défense à 4. Voilà. Ouais. Après, dans une défense à 3 ou à 5, en fonction de si tu as le ballon ou pas, le problème, c'est que Fabio, c'est quasiment un joueur offensif. Et malheureusement pour lui, en plus de ça, il est souvent fautif sur les cartons. Il a du mal, en fait, avec sa fougue. Voilà. Ouais. Après, Corcia, il a un bon pied, mais peut-être un petit peu moins d'activité. Donc c'est vrai que quand tu joues à 4, après dans le système avec un joueur comme Giroto qui peut un petit peu alterner, un peu à l'image de ce que faisait Marquinhos la saison dernière au Paris Saint-Germain, c'est-à-dire que pouvoir s'intégrer au milieu, revenir derrière, tu peux aussi dans l'animation jouer différemment. Mais c'est vrai que je trouve qu'à droite, pour une équipe comme Nantes, je pense qu'Apia peut faire le job. Te donne quand même beaucoup plus de certitude au niveau défensif.
Après, là, tu parlais de Giroto. Alors, pour ceux qui écoutent le Space régulièrement, c'est un secret pour personne. Moi, c'est un de mes joueurs préférés. C'est un joueur de l'ombre. C'est un joueur que j'adore. C'est pas lui forcément qui va faire des différences, mais qui est souvent présent et qui tient sa place.
Tu as l'impression qu'il ne fait pas des différences, mais si tu dis ça, c'est qu'il en fait d'une manière peut-être plus discrète.
Ouais. Non, tout à fait. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a un rôle un petit peu plus ingrat, c'est-à-dire que ce n'est pas un joueur qui va briller comme peut briller de temps en temps Ludovic Blas ou Simon ou d'autres. Mais Giroto, c'est un élément pour moi indispensable de ce 11 de départ. Toi, tu le préfères dans un rôle plutôt de sentinelle, un rôle plutôt en défense centrale. Comment tu le préfères,
Giroto? Je le préfère au milieu parce que c'est un joueur qui sent le jeu. C'est un joueur qui est très intelligent, qui a vraiment cette sensibilité collective. Il y a toujours un ou deux joueurs dans une équipe comme ça. Je prends l'image de par exemple d'André à Lille. Ces joueurs-là qui sont très bons sur la première relance, qui jouent juste, qui équilibrent en fait l'équipe et puis finalement qui font bien jouer les autres. Donc moi je le préfère au milieu. Après c'est comme je dis, en fonction de l'animation, en fonction des adversaires, on sait qu'il peut reculer, mais moi je le préfère au milieu parce qu'il a vraiment il a un bon pied aussi. Il a vraiment une bonne justesse même dans son jeu long. Donc je le préfère au milieu, mais après voilà, on sait que c'est un joueur polyvalent.
Ouais. Offensivement, on a l'impression qu'on trouve un petit peu, qu'on trouve petit à petit des marques sur cette attaque nantaise. Alors on a parlé de Mostafa Mohamed, d'Evan Guessant, voilà, de ces joueurs-là. Toi, est-ce que tu préfères avoir un attaquant de pointe là, suivant les profils qu'on a là aujourd'hui, ou tu penses qu'à deux ça peut fonctionner avec Mohamed et Guessant par exemple?
Non, je pense que ça peut fonctionner et je pense qu'Antoine il préfère avoir ces choix-là. Pour moi, Moses Simon, ça doit être un joueur qui doit être tout le temps dans le 11 de départ. Donc après, c'est à lui de moduler. Mais comme on disait, il y a des enchaînements de matchs où tu vas être obligé de changer un petit peu tes compositions d'équipe d'un match à l'autre. Et donc, c'est bien d'avoir toutes ces forces-là, notamment au niveau offensif. C'est pour ça que je parlais de confiance tout à l'heure. Au début, c'est jamais évident quand tu arrives dans un club de t'adapter. Et puis surtout, il y avait la lourde tâche de remplacer Kolo Muani. Et c'est vrai que finalement, Mostafa Mohamed, je crois qu'il reste sur 3 matchs avec 3 buts. Guessant qui a marqué aussi et qui a marqué ce but là, je pense qu'il va, avec l'ambiance qu'il y a eu derrière, le but de la victoire, qui va lui faire un bien fou. Donc ouais. Non, je pense que pour moi, quand Simon est là, je pense qu'il doit jouer parce que dans la manière dont joue Nantes, il t'apporte tellement de choses, il te fait reculer même une équipe, il va tellement vite que, alors c'est pas Mbappé, mais ce que je veux dire, c'est que les équipes qui t'affrontent, quand il y a Simon sur le terrain, il joue quand même, quoi qu'il arrive, différemment, il te laisse pas trop de profondeur, voilà, enfin, ça peut te faire reculer un bloc, mais c'est bien qu'il y ait en tout cas toutes ces possibilités-là pour Comboiré.
Je sais que tu dois y aller, donc on va essayer de voilà.
Ouais, désolé, comme je dois voir le match en fait, comme demain.
Mais oui.
Je regarde un peu là de lance 3 en même temps, mais non, mais après on peut rester 3-4 minutes, y a pas de souci.
Bon, voilà, c'est cool.
Pas plus, ouais. Désolé. Après, je reviendrai à un moment si vous m'avez invité.
Mais bien sûr, mais t'es dans le space, c'était chez toi, y a aucun souci. T'es supporter nantais aussi, y a pas de problème.
C'est gentil.
C'est avec grand plaisir. J'avais une question, mais je vois que Jean-Charles et James voulaient te poser aussi une question, donc on va faire un peu tourner la parole. Jean-Charles, vas-y si tu avais une question.
Ouais, bonsoir Sébastien, merci pour la présence. Ouais, je vais me permettre de tutoyer. Hein. Oui, je voulais juste savoir, parce que c'est vrai, comme tu disais, là, l'effervescence est retombée par rapport à la victoire. Il faut déjà se projeter sur le match de dimanche.
Elle est déjà retombée, tu crois?
Eh ouais, moi je suis très terre à terre. Hein, les trois points, on enchaîne. Enfin, t'as été professionnel, donc c'est ce que c'est. Même si l'excitation est encore là, je vais te poser une question comme si tu étais dans la peau de Comboiré, notamment par rapport à cet enchaînement de matchs, parce que ça va être le quatrième en l'espace de moins de deux semaines. Toi, tu vois une compo vraiment hybride, en sachant qu'Antoine n'aime pas trop changer son 11, même s'il y a Sissoko qui a fait une bonne rentrée, Simon, comme tu disais, qui est quelqu'un qui est indispensable. Comment tu vois le 11, en sachant que c'est un match qui est quand même capital, parce que Lorient, ils ont, même si on sera un peu plus à égalité, parce que Lorient a joué en milieu de semaine, donc ça c'est plutôt positif pour nous, mais ils ont quand même battu l'OL, qui est pas le premier venu, même s'ils ont, ils peuvent avoir des manques de constance. Quoi. Toi, tu le vois comment le 11 et le match en lui-même?
Déjà, bon, Lorient, c'est vrai que c'est une équipe qui, depuis le début de saison, dans le jeu notamment, et puis en plus de ça dans les résultats, fait partie des belles surprises, avec notamment le changement d'entraîneur. Donc c'est une équipe qui joue bien au ballon, mais qui laisse aussi quand même pas mal d'espace, surtout qu'ils vont jouer à domicile. Moi je pense que changer des joueurs, il va être obligé, tout changer ça sera pas le cas quoi qu'il arrive. Il faut aussi savoir que jeudi, je suppose qu'ils partiront le mercredi. Karabakh, c'est un déplacement incroyable. Et il faut aussi l'anticiper. Donc voilà, pour moi, donc les joueurs qui est comme justement Sissoko, Simon, ça va être titulaire. Je le vois bien jouer. Je le vois bien jouer dans une défense à 4 encore pour affronter Lorient. Je ne vois pas revenir là sur ce match-là avec une défense à 5. Peut-être qu'il fera souffler Mostafa Mohamed. Alors, je ne sais pas si ce sera lui ou Guessant, mais je pense que les deux ne joueront pas en même temps. Et après, je pense qu'on sera sur un 4-2-3-1. Je pense que Blas peut enchaîner de par rapport à son positionnement. Il a un jeu en plus où, bien sûr, qu'il fait des efforts. Hein, mais on sait que justement, dans ce type de match-là, il faut avoir une justesse technique parce que tu n'auras pas forcément 50 000 occasions. Donc je pense qu'il y aura 3-4 changements, mais pas plus, parce qu'il y a une bonne dynamique, mais que tu es obligé quand même de faire souffler des joueurs, sachant que souvent, tu sais, quand tu joues ce type de match comme hier à haute intensité, peut-être que même là, s'il n'y a pas de blessés, tu peux avoir une mauvaise surprise ou une gêne musculaire, peut-être même demain, par exemple, demain matin au réveil, enfin voilà, ça peut arriver 48 heures après. Donc ouais, les 3-4 changements, il y aura, mais je ne pense pas qu'il changera de système.
D'accord. Oui, James, tu avais une question, vas-y. Et après, on va laisser Sébastien travailler quand même.
Oui, salut Sébastien. Salut. J'ai parlé de Pedro Chirivella hier soir face à l'Olympiakos. Il a clairement délivré une prestation digne des plus grands soirs et d'un top club européen. Je voulais savoir ce que tu en pensais, toi, et si pour toi, c'était l'homme du match hier soir. Et voilà.
Je vais être honnête, comme je le disais, j'ai pas pu voir le match parce que je commentais en même temps le Monaco. Donc j'ai vu que des images.
Si tu veux les statistiques, je vais les mettre dans le space aussi. Mais ouais, personnellement, j'ai trouvé Chirivella vraiment exceptionnel hier soir et voilà. J'aurais aimé avoir ton avis là-dessus.
À l'image de Palois, alors je dis pas que c'est les mêmes joueurs. Hein, Giroto, il y a 5-6 joueurs à Nantes maintenant là qui sont devenus incontournables de par leur état d'esprit, de par leur compréhension du jeu, et il en fait partie. Donc moi déjà par rapport à ça, voilà, c'est un joueur aussi que j'apprécie beaucoup. La prestation d'hier, bon, je te crois sur parole, surtout si tu as les stats. Donc et tant mieux, ça veut dire aussi que certains joueurs sont capables d'élever leur niveau lors de matchs comme ça européens. Et encore une fois, on parlait rapidement au début que ça reste que la Ligue Europa, mais quand on voit voilà le niveau qu'il y a dans cette Ligue Europa, c'est ça n'est que l'Olympiakos, mais aujourd'hui on n'est que Nantes. Et c'est vrai que ça doit apporter beaucoup de confiance sans excès aux Nantais, ce type de performance-là, et en particulier pour lui. Mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, c'est un joueur qui a du talent, c'est un joueur qui comprend bien le jeu, c'est des joueurs qui sont capables de s'adapter aussi. Bon, hier, c'est Castelletto qui est resté sur le banc, c'est un joueur que j'aime bien aussi. Voilà, donc moi, je pars du principe où si Antoine arrive à avoir ses 14-15 titulaires, même si après il devra peut-être faire un peu plus tourner, mais 14-15 titulaires qui sont capables de jouer sans que ça change énormément de choses dans ce qu'il veut voir sur le terrain, Antoine aura gagné, quoi. Donc voilà, mais je te le dirai, parce que lundi, d'accord, je vais regarder le match en replay, et je te dirai ce que j'en pense, mais bon, je te crois sur parole et ça me surprend pas.
Ouais, c'est vrai que Pedro Chirilla, de toute façon, depuis quelques temps là, parce que c'est vrai que quand il est arrivé, c'était un petit peu difficile, et puis bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie, mais notamment alors petit bruit là. Ouais, voilà, je vais désactiver ton micro, James, parce qu'on a un petit bruit de fond. Mais Thierry Vella, voilà, on va pas remuer le couteau dans la plaie, je disais, mais on se souvient à l'époque qu'un certain Raymond Domenech ne le faisait pas jouer. Mais juste après, c'est étonnant. Hein. mais derrière, voilà, il a carrément explosé, et maintenant on voit que c'est un top joueur, en tout cas pour le FC Nantes. Donc voilà, c'est vrai qu'il nous fait des prestations assez sympas. Sébastien, du coup, on va te remercier juste avant de partir, peut-être. Ton meilleur souvenir, toi, au FC Nantes, ça serait quoi? Le premier qui te vient en tête, en tout cas?
C'est tout simplement la première Coupe de France, hein, contre Sedan. Ouais. Voilà, c'est logique, et parce que c'est mon premier titre avec Nantes, et puis surtout avec deux, trois générations très proches formées au club, avec qui on avait grandi au centre. Donc forcément, on avait l'impression de se retrouver des gamins qui avaient 15-16 ans à 18-19 ans au Stade de France pour gagner la première Coupe de France. Après, j'ai adoré la Gambardella aussi, mais on l'avait perdu en finale contre Montpellier, mais c'était pareil, c'est ce genre d'épopée. Mais moi, ce que j'aime avec la Coupe de France, au-delà du championnat, bah, c'est que ça t'embarque, vous l'avez vécu l'année dernière, ça t'embarque un peuple entier, c'est d'autres émotions, et ça permet d'avoir un élan incroyable. Et puis là, je vois que Nantes continue sur cette lancée-là, et donc tant mieux pour les Nantais et les supporters.
Ouais, et on va en vivre de belles émotions, en tout cas, voilà, avec notamment le match d'hier soir, on continue de vivre de belles émotions. Sébastien, merci. On fait l'avant-match et le débrief de chaque match de Ligue 1 et d'Europa League, donc si un jour tu es dans le coin, n'hésite pas.
On aura l'occasion, là, parce que vous savez comment ça se passe avec les Coupes d'Europe, donc là c'était sur W9, donc. En fonction, je pense que j'aurai la chance au moins de faire un ou deux matchs à la Beaujoire si on a les matchs. Donc, on risque de se voir même au stade, il n'y a pas de souci.
Eh bien, on a hâte. Merci en tout cas d'être
passé. Allez, passez une bonne soirée. Cool.
Bonne soirée.
Merci, bon week-end.
Merci, au salut. Au revoir, merci. Bon, on va enchaîner avec un autre invité qui était au stade hier, et pour cause, puisque c'est le speaker officiel du FC Nantes, Jean-Charles aussi est là. Salut Jean-Charles.
Vous m'entendez ou pas?
Ouais, on t'entend, super, bon. Impeccable. Oui, je disais, du coup, tu étais forcément au stade hier. Quelle émotion. Alors moi, j'y étais pas, mais j'imagine que c'était le feu à la Beaujoire.
C'était dingue. Je me suis même surpris au début des premiers chants de la tribune noire à regarder un copain et à montrer mon oreille, parce qu'il était loin, en lui disant ah, « c'est fort ». Et c'est vrai que c'était incroyable. Je regardais un peu Twitter aujourd'hui et il y a certaines personnes, ouais, qui disent voilà, c'est dans le top 3 des ambiances depuis le début enfin depuis au moins très longtemps, peut-être pas depuis le début de la tribune noire, parce que ça a été créé en 99 et il y a eu des titres et la Champions League, mais c'est vrai que c'était un niveau au-dessus de ce qu'on a pu vivre même l'année dernière sur des matchs contre Paris, Monaco ou même Lens. C'était dingue, ouais. C'était le retour tant attendu et ils ont mis le feu comme on pouvait s'y attendre, et c'était génial.
Ouais, ouais, ouais. Et ça, Comboiré avait demandé justement à ce que ce soit le feu, et je pense qu'il n'a pas été déçu du voyage. Toi, depuis que tu es speaker du FC Nantes, d'ailleurs, c'est quelle date exactement?
C'est ma cinquième saison. J'ai commencé le premier match c'était le 11 août 2018 par un Nantes-Monaco avec 33 000 personnes. Ça passe vite en tout cas.
Ouais, c'était le but avec Lucas Lima, non? C'est pas ce match-là? C'est pas le but non, c'est pas celui-là.
Non, c'est Salah qui marque le seul but. On prend un doublé de Falcao de mémoire. Un but de je sais plus qui et un but de Salah.
D'accord, ok. Depuis que tu es arrivé, est-ce que tu dirais que c'est la plus belle ambiance que tu as vécue en tant que speaker hein, du FC Nantes?
Alors, à la Beaujoire, peut-être.
Ouais.
Après, j'avoue que si je devais faire un top 3, forcément, je mets le match d'hier dedans. Je mets le Stade de France.
Ouais, bien sûr.
Mais oui, c'est sans doute. Attends, je suis en train de chercher dans ma mémoire. Je fais un rapide scan. Ouais. Après, pour ceux qui étaient au stade, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait aussi la victoire 1-0 contre Rennes sur une palenka d'Abdoulaye Touré. C'était fou là aussi, c'était pas mal. Mais c'était pas mal sur une partie du match en fait. Et là, c'est vrai qu'hier, ça a été du début à la fin. Il y a le scénario aussi qui fait que le match est dingue avec cette domination sans partage, enfin écrasante. Enfin, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la victoire est méritée. Et puis il y a ce moment de doute avec ce CSC, le but refusé, on se dit putain, c'est pas possible. Le match, il va nous échapper. Et puis ce but à la 92e, donc ouais, je pense que c'est dans le top 3 en tout cas des plus belles ambiances que j'ai vécues.
Oui, après voilà, c'est vrai qu'on est, je pense, on est un peu unanime. L'autre Jean-Charles, du coup, tu es d'accord avec Jean-Charles qui disait qu'on mérite la victoire de toute façon.
Ouais, je pense qu'il n'y a pas photo. Merci pour les émotions. J'ai plus une question technique par rapport au job qui consiste hier. À un moment donné, vous avez fait monter la température sur le but qui a été annulé. Ma question était de savoir s'il n'y avait pas des consignes techniques justement par rapport à cette VAR qui fait des fausses joies et qui peut nous faire remonter et descendre aussi vite. Parce que là, hier, de mémoire, vous avez annoncé donc, le deuxième but et puis 30 secondes après, bon, bah non, finalement, non. Quoi.
Ouais, but de descente refusé. Ouais, ça.
Exactement. Alors, il y a des consignes plutôt strictes sur la VAR en Ligue 1 par rapport à l'Europa League. Après, pour être tout à fait honnête, les gars, hier, j'ai vu, on était plusieurs avec Bastien qui s'occupe aussi des missions RSE au club. On a vu qu'il y avait hors-jeu sur le but avec le hors-jeu de Mostafa. Ouais. Mais je me suis dit quand même, voilà, pour faire monter la température, je vais quand même, on va quand même célébrer comme s'il y avait un but. tout le monde comme ça monte en température. Je me dis que inconsciemment ça peut peut-être mettre la pression à l'arbitre qui dit bon allez c'est bon on valide ils sont trop sur deux. Mais très rapidement on a vu qu'il n'y avait pas de but, donc on s'est dit bon on le fait. Au pire il valide, mais on n'y croyait pas trop. Mais voilà, ça permet de maintenir tout le monde un peu dans un état de transe. Et voilà, c'était que partie remise finalement pour que un quart d'heure 20 minutes après. Il marque le but de la victoire.
Donc on peut dire, si je me permets, que le 13e homme, c'est le speaker.
Je pense qu'un. Alors, dans l'organisation d'un match de foot, on ne peut pas se passer d'un speaker, c'est comme ça, c'est obligatoire. Mais on peut, pour moi, on peut se passer d'un speaker, mais pas de supporter, pas de la tribune noire en tout cas. Enfin, pas des supporters de manière générale même. Donc ouais, je suis content de participer au folklore, à la fête et à faire le lien, mais c'est pas moi qui met le plus d'ambiance, c'est vous, ce sont les supporters et c'est tant mieux comme ça.
Ouais, mais après c'est vrai que il faut pas minimiser. Alors moi, pour la petite histoire, je l'ai fait deux fois pour du volley à Toulouse. Donc c'était à moindre échelle,
du volley
à moindre
Toulouse public.
Ouais, il y a du volley à Toulouse, ouais, en première division et tout. Ouais, c'est non, mais tout ça pour dire que c'est. Je pense qu'il faut pas minimiser justement l'importance du speaker parce que c'est lui aussi qui est garant un petit peu de comment dire, au moins du feu qu'il peut y avoir en tribune, même si, comme tu l'as dit, la tribune noire notamment pour dominante, ça fait quand même une très grosse partie. Mais je suis allé voir un match au Vélodrome, ben Marseille-Nantes, j'ai été voir cette année. Et c'est vrai que je disais à mes potes marseillais, je leur disais, je trouve dommage parce que le speaker, il n'est pas très entraînant à Marseille. Alors, je ne sais pas si
oui,
tu le connais.
Je suis d'accord. Je ne le connais pas, mais je l'entends des fois à la télé. Il faut savoir qu'il y a très longtemps, alors je ne pourrais pas te dire d'année exacte, mais la Ligue de foot organisait un séminaire pour les speakers. Ça existe pour tous les métiers dans chaque club. Donc tu vas avoir un séminaire pour la sécurité, pour le marketing, etc., etc. Il y a très longtemps, ils organisaient des rencontres entre les speakers, ce qui est très intéressant parce qu'on se connaît certains un petit peu et on a tous des manières de travailler différentes. Moi, je me rappelle il y a 2 ans, enfin encore quand Nîmes était encore en Ligue 1, Gaël, qui est le speaker, il m'avait appelé en me disant « Comment tu travailles ?» Parce que moi, à Nîmes, je travaille de telle manière, on n'a peut-être pas les mêmes moyens, mais voilà, est-ce que tu as un outil ? Est-ce que tu peux m'aider ? Et c'est vrai qu'en fonction des moyens des clubs, de la qualité aussi des équipements des stades, tu as des speakers qui ont des métiers totalement différents. Je suis d'accord sur le speaker de Marseille que je ne connais pas, mais c'est assez lent. Moi, je suis allé voir un match à Monaco aussi. Bon, Monaco, il n'y a pas de public, donc c'est difficile de d'enflammer. Ouais. Mais alors qu'à Lyon, on a un peu la même façon de faire parce qu'on a quasiment le même âge, mais il faut réussir à trouver sa place sans justement pas oublier que l'ambiance principale est mise par les supporters, encore une fois.
C'est à Strasbourg aussi où il y a un espèce de petit jeu avec les supporters qui est assez sympa. Est-ce que tu t'inspires un petit peu de ce qui se fait ailleurs dans d'autres championnats ou dans d'autres clubs?
Je regarde alors Strasbourg, Jean-Luc Filzer, il est historique et c'est un très très bon speaker et ils ont réussi à mettre en place ça, je trouve ça génial. Je suis en train de regarder Lens 3, il y a 0-0 pour info. Et le speaker, du coup, Amazon laisse vraiment aussi assez de. Enfin, il laisse les images, il laisse les micros ouverts. Donc on entend plein de choses. Et là, le speaker de Lens, sur la compo, en fait, il parle. Il dit pas juste, comme moi je peux faire, le prénom et puis le supporter dit le joueur. Il dit, c'est comme si je disais par exemple, le numéro 4. C'est un roc, c'est une montagne, personne ne le passe. Nicolas, en fait, pour chaque joueur, il a une définition ou il a un petit message. Donc c'est très très particulier. Après, c'est aussi les clubs qui donnent de la liberté ou non pour faire certaines choses.
Et est-ce que ça serait je me rends pas compte si c'est difficile à réaliser comme il fait à Strasbourg par exemple d'avoir un petit rituel avec par exemple la Brigade Loire ou quoi. Est-ce que ça serait compliqué à mettre en place un petit répondant avec un COP?
Je pense pas. Je pense qu'il faut se voir. Il faut voir si déjà le COP en question, enfin que ça soit à Nantes pour la BL ou notre club, mais peu importe, a envie. Puis après, il faut faire un truc qui soit en accord avec Nantes, quoi. Avec soit un chant, soit un truc à trouver. Mais ça tout est envisageable.
Ok, donc et toi par rapport à ça, est-ce que t'as le champ libre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui gère ça ou c'est toi qui décide un petit peu de comment tu veux amener les choses?
J'ai la chance d'avoir assez de liberté. Je sais ce que le club ne veut pas. Donc une fois que tu sais ça, tu dis ok, je peux faire tout le reste, sauf des trucs qui n'ont pas trop envie d'avoir. Donc je suis plutôt assez libre. D'ailleurs, je le fais assez facilement. Je pense qu'à tous les matchs, je passe des messages parce que j'ai pas mal de supporters qui m'envoient des messages. Je dis, tiens, j'ai mon fils qui vient pour la première fois ou c'est son anniversaire ou autre. Donc, on prend assez de liberté. Donc, je pense qu'on peut le faire assez facilement à Nantes.
Ok, c'est cool d'avoir ces petites infos. C'est vrai que là on rentre un petit peu dans dans l'intimité de la vie du club, c'est sympa, on voit un petit peu comment ça se passe. C'est cool et merci à toi de nous faire partager tout ça. On va parler aussi du match d'hier soir. Alors Jean-Charles, si tu veux rester avec nous, c'est avec grand plaisir, si tu veux un petit peu parler du match d'hier. On a un supporter de l'Olympiakos qui était là pour l'avant-match et qui est de retour pour le débrief, c'est Vas qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Vas, déjà?
Bonsoir, oui, je vous entends. Et vous m'entendez, vous ?
Ouais, ça va, on t'entend parfaitement. Okay. Bon, du coup, oui, on parlait dans l'avant-match des objectifs, on va dire, de chacun des deux clubs. Toi, comment tu, après avoir vu le match et en voyant la physionomie du match, est-ce que tu te dis, de toute façon, on méritait pas mieux, ou tu te dis, c'est dommage de pas avoir tenu le nul à 2-3 minutes près ?
Je pense que c'est un peu des deux. Dans le fond, la meilleure équipe a gagné et voilà, c'est le football. Maintenant, oui, quand on voit que malgré qu'on a été mauvais pendant 70-80 minutes et qu'on arrive à la 90e minute avec un score de 1-1, on se dit on aurait pu aller jusqu'au bout et garder ce 1-1, mais après on méritait clairement pas plus après la prestation d'hier.
Tu as été déçu plus de la, du manque d'agressivité au milieu de terrain, du manque d'envie offensivement. Comment t'as ressenti ça, toi ?
En fait, c'est une déception, et je pense que à l'après-match, la plupart des supporters de notre côté ont été d'accord. C'est notre mercato et c'est vis-à-vis des dirigeants. Quand on voit que dès qu'on a un ou deux blessés, que l'équipe ne tourne plus du tout, parce que c'est pas que on a un remplaçant et ça se passe un peu moins. Quand on voit le match d'hier, notre milieu à deux s'est fait complètement bouffer et on n'a rien su proposer. Au final, déçu du match et surtout remonté par rapport aux décisions des dirigeants.
J'ai une question pour Vass, oui, si c'est possible.
Ouais,
j'ai été surpris en fait effectivement du niveau de l'Olympiakos. Je l'attendais vraiment. Alors je sais pas le championnat que je suis plus, le championnat grec pour être tout à fait transparent, mais j'avais des souvenirs de l'Olympiakos quand ça jouait la Champions League, beaucoup plus fort. Donc j'étais surpris et j'étais surtout surpris des choix, des changements. El Arabi, il est rentré vachement tard, alors que dès qu'il a eu, on l'a vu que dès qu'il avait le ballon. Il faisait quand même des différences. J'ai découvert un joueur bowler. Je me suis dit, OK, il n'y avait peut-être pas d'autre choix que ce joueur-là au moment où ils l'ont pris. Et pourquoi, selon toi, Valbona, il n'est pas rentré ?
Beaucoup de questions, honnêtement. Déjà, par rapport à El Arabi, je pense que le choix était de faire commencer Wang, parce qu'il avait l'habitude de l'année passée jouer contre l'FC Nantes. Comme j'ai dit, très compliqué de comprendre les choix de l'entraîneur. Par exemple, l'entrée de Aboubakar Camara juste avant El Arabi, par exemple, qui n'avait plus joué depuis le premier match de préparation où il s'était blessé. Donc personne n'a vraiment compris pourquoi il est rentré lui, pas El Arabi, par exemple. Parce que malgré qu'on était mauvais, comme tu as dit, dès qu'El Arabi est rentré, on voit un joueur qui sait garder le ballon, qui peut faire remonter le reste de l'équipe. Donc, on n'a pas eu trop d'explications. On ne comprend pas trop non plus. Maintenant, je pense que le problème, ça a surtout été les deux au milieu. Et du coup, avec ce milieu qui était faible, on n'arrivait pas à monter vers le haut et aucun de nos joueurs offensifs n'aurait pu exprimer quoi que ce soit. Bowler, par exemple, c'est maintenant avec le dirigeant, donc le président Marinakis, qui est aussi président de Nottingham Forest.
Ah oui.
Et donc voilà, c'est un joueur aussi qu'il a acheté pour Nottingham Forest et qu'il a après prêté chez nous. Il a fait peut-être deux entraînements. Il est arrivé le dernier jour des transferts et puis il joue ses 20 premières minutes aujourd'hui. Donc peut-être qu'il est bon, mais c'est un joueur qui était aussi pas prêt pour jouer, quoi.
Ouais.
On a également Yanis qui est supporter de l'Olympiakos et qui est avec nous. Salut Yanis.
Salut à tous, vous m'entendez ?
Ouais, on t'entend super. Du coup, c'est vrai que voilà, on demandait un petit peu à Vass du coup son avis par rapport au match d'hier. Toi aussi, t'es un peu frustré de la prestation de l'Olympiakos d'hier. Tu t'attendais à mieux ?
Écoutez, je pense que Vassil, si c'est bien ton prénom, Vassil, je pense. Il a bien résumé la situation. Ce qui ressort dans la presse grecque depuis le match, c'est que l'équipe n'était absolument pas prête. On a un entraîneur qui débarque, qui a pas du tout composé son équipe comme l'avait pu le faire l'ancien entraîneur Martins les années précédentes, par exemple. et on est sur un mercato en cafouillis total, où on met le premier venu et ça bouscule aussi l'ordre établi dans l'équipe auparavant. Donc aucune cohérence. La première mi-temps, on n'est pas descendu sur le terrain. Ça, c'est un match à sens unique. On a existé les 15 premières minutes de la deuxième période. Et après on a fait de l'Olympiakos. Hein. On a fait, c'est le cinquième match où on prend un but dans les arrêts de jeu de la seconde mi-temps. C'est du classique. Malheureusement, c'est du classique pour l'Olympiakos depuis les quelques dernières années en Europe.
Ouais. C'est vrai qu'il y a eu cette latence un petit peu. Alors nous, c'est vrai que depuis le début de saison, on a un petit peu l'habitude de manquer une mi-temps sur les deux. Est-ce que, alors toi, t'étais pas au stade, t'étais devant la télé hier?
Ouais, j'étais devant la télé, malheureusement. Enfin, heureusement ou malheureusement, je sais pas, vu le match.
Ouais, ouais. Oui, c'est sûr que c'est toujours mieux de faire le déplacement quand on gagne, mais bon. Du coup, est-ce que tu l'as senti comme ça aussi? Tu t'es dit que dans le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, tu t'es dit, là, il y a un coup à jouer. Le premier but arrive très vite. Et est-ce que tu t'es pas dit, bah, tiens, il y a peut-être possibilité d'aller mettre un deuxième assez rapidement parce qu'ils sont pas revenus non plus des vestiaires?
Ben, c'est sûr que c'était le moment ou jamais dans la physionomie du match. Hein. On sentait Nantes qui était un petit peu en dessous. Nous, on revenait bien, on a eu l'égalisation un peu chanceuse. C'était le moment. C'était le moment ou jamais.
Ouais. Ouais, tu parles de chance. Nous, il y a Alban Lafont qui nous fait une boulette par saison. C'était contre vous, donc il fallait en profiter, les gars. Là, maintenant, c'est fini. Là, il n'en fait plus. Après, James, ouais, tu voulais dire. Ouais, vas-y, finis.
Excuse-moi. Sur la physionomie du match, on a pu lire dans la presse grecque aussi la dernière faute de Palois sur Camara qui venait de rentrer. Moi, je vais pas m'arrêter à ça, mais si on devait vraiment être pointilleux, il y a carton jaune minimum, voire carton rouge sur le geste de Palois qui amène le deuxième but. Mais quand on voit la physionomie du match, la victoire de Nantes, elle est méritée, on peut pas dire autrement. Hein.
Ouais. T'es un petit peu frustré peut-être de la, comment dire, de à 2-3 minutes près aussi de pas avoir pu tenir le nul.
Ben complètement, parce que sans manquer de respect à personne, Nantes c'était une équipe qui était prenable par l'Olympiakos comme elle a été prenable par Nantes. Hein. Vous avez gagné, donc c'est le cas de le dire. Mais on perd un point qui pourra faire la différence au bout du sixième match, par exemple, parce que je pense que ça sera un groupe qui sera plutôt serré. Et oui, on aurait pu repartir avec le point du match nul, ça c'est sûr.
Ouais. James, tu voulais dire quelque chose?
Ouais, du coup, moi, avant le match, donc au Space, j'avais dit que on allait se diriger sur une victoire relativement logique. J'avais parlé des problèmes de l'équipe de l'Olympiakos, donc une équipe qui était encore en rodage avec des partants, des arrivées, une mauvaise cohésion de groupe. C'est normal, c'est le début. Et voilà, ils avaient une mauvaise préparation comparée à Nantes, qui fait de sacrés bons matchs depuis le match de Marseille. J'en parle souvent, mais c'est depuis vraiment ce moment-là, je trouve qu'on a un autre visage, un visage bien plus envieux, avec une meilleure hargne, et ça s'est confirmé hier soir. Personnellement, l'arbitrage sur la faute de Palois, pour moi, il n'y a pas de faute. Tout comme, dans ce cas-là, si on siffle la faute de Palois à la fin du match, on siffle aussi le pénalty pour Blast à la 62e minute. Donc voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Voilà. Ensuite, je pense que le problème de l'Olympiakos, ça a été votre faiblesse au milieu de terrain. Vous vous êtes fait manger tout le match, très faible techniquement. Vous n'avez pas su récupérer le ballon, enchaîner trois passes, et ça a payé, parce qu'au final, ça a payé dans le mauvais sens, parce qu'au final, vous perdez. Et je pense que ça partait de là, parce que Wang, en début de match, il était plutôt dangereux quand il avait des ballons. Il avait des solutions avec des replis offensifs de vos joueurs, mais le problème, c'est au milieu de terrain, quoi, en fait. Et voilà. Maintenant, on gagne ce match de manière logique. Pour moi, il devait y avoir facilement peut-être deux buts de plus pour Nantes sur l'action de Guessan, où il pousse un peu trop le ballon. On ne va pas lui reprocher à Guessan, et le pénalty, pour moi, qui devait être sifflé à la 62e minute. Voilà. Ensuite, le match, il était logique, et je ne pense pas qu'au début du match, c'était l'Olympiakos qui devait remporter le match, mais plutôt le FC Nantes. Meilleure préparation, et ça s'est confirmé. Peut-être qu'au match retour, ça va être différent, mais pour le moment, on était clairement au-dessus.
Alors après, ouais, on parlait surtout du début de la deuxième mi-temps, où on a été un peu inexistant.
Même là, tu vois, je vais te dire, même là, on a eu quelques faiblesses avec des opportunités grecques, mais même là, on a aussi, pendant ces 15 premières minutes, on a eu des opportunités de notre côté. Et en vrai, si tu veux, ils ont sorti un peu d'envie, parce qu'il y a eu le discours, à mon avis, de l'entraîneur, etc. Mais tu vois, ça a été vite essoufflé, et le but, on se le prend vraiment de notre faute. Enfin, Lafont, je pense qu'il avait un match un peu nul pour lui. Il avait aucun danger réellement. jusqu'à ce moment-là. Donc, il a voulu faire une petite sortie sur le corner. Tu vois, qu'on le voit un peu, je pense. Vraiment, je pensais ça. Et alors que c'était inutile, tu vois. Et on se prend le but comme ça. Mais sinon, mis à part ça, ça a vite essoufflé leur envie, quoi. Enfin, deuxième
après, temps, là où... Là où je suis pas tout à fait d'accord avec toi, c'est que quand même sur le premier quart d'heure, moi j'ai noté quand même quelques signes d'inquiétude de notre côté. On se mettait la panique, tu vois.
Et c'est assez. Mais en fait, c'est assez répétitif.
On
est resté aussi intensif.
C'est assez récurrent chez nous où tu vois, on fait une très bonne première mi-temps et la deuxième, on s'écroule un petit peu, ou l'inverse. D'ailleurs, c'est plutôt l'inverse depuis le début de saison, où on fait une première mi-temps très très moyenne, voire pas bonne du tout, et la deuxième où on s'y met un petit peu plus. Et là, je suis plutôt d'accord avec Yanis sur le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps. Mais franchement, si l'Olympiakos marque un but, alors effectivement là, c'est un peu un but casquette, mais si l'Olympiakos arrive à marquer, mais je me dis que c'est un peu de notre faute aussi et que voilà, on rentre pas correctement dans cette deuxième mi-temps. Et ça, c'est à travailler aussi, parce que ça, c'est un aspect mental. Donc ça, voilà, il va falloir faire très attention, notamment contre Fribourg, parce que pour l'Olympiakos comme pour le FC Nantes, je pense que Fribourg, ça va être le match le plus important de la poule.
Concernant Fribourg, Fribourg, c'est une équipe qui va être relativement axée sur la défense. C'est plutôt un jeu comme notre ancien jeu la saison dernière, porté sur les contres rapides. Voilà, donc maintenant, on va peut-être subir parce qu'ils sont dans une meilleure forme et la confiance, elle est là. Mais les équipes qu'ils affrontent jusqu'à maintenant, on peut regarder le match d'hier. J'ai un peu suivi leur match hier contre Karabag et c'était compliqué. Ils ont eu un peu de mal quand même à se défaire de Karabag. Et en Bundesliga, pour l'instant, ils ont de la chance de tomber sur des équipes bas de tableau de Bundesliga. Je le souligne.
Oui. Voilà. Après, je te rappelle juste au passage que nous, contre Angers, on gagne pas non plus. Donc il faut pas, tu vois,
les débuts de saison, nos joueurs sont pas prêts physiquement. Il y a pas le.
Mais ça, c'est ça vaut pour tout le monde.
Il y a pas les.
Ça vaut pour toutes les équipes. Ça vaut pour toutes les équipes.
D'accord. Je suis d'accord. Mais je dis seulement que Fribourg, c'est pas, je pense pas, une équipe qui va être favorite déjà pour cette Europa League. Et je pense pas que. Enfin, je pense que quand on va jouer ce match, à la fin du match, on va se dire que. On s'est un peu trop monté la tête pour rien et qu'au final, je pense que ça va sortir sur un petit nul ou un score un peu comme ça, tu vois.
Écoute, j'espère que le résultat te donnera raison. Après, voilà, il y a une victoire à Leverkusen qui est quand même pas dégueulasse du côté de Fribourg. Bon, voilà, il y a quand même des signes que le Fribourg, c'est pas une équipe nulle non plus, quoi. Il va falloir faire attention. Non, pour moi, c'est l'équipe la plus forte du groupe.
Je dis pas ça non plus. Voilà. Je dis juste qu'on les surcote un peu, je pense aussi. Hein. Il y a un peu de ça.
Moi, pour moi, c'est Fribourg en 1 et après Olympiakos Nantes, ça va se jouer pour la deuxième place et Karabag, voilà, très très loin derrière. Mais bon, à voir. Nous, il va falloir aller gagner aussi à Karabag. C'est pas simple. Hein. Ça va être un match piège, ça aussi, je pense. Yanis, ouais, tu voulais rebondir là-dessus.
Oui, je suis d'accord pour Fribourg. Ça me semble être l'adversaire le plus compliqué dans ce groupe parce que la Bundesliga, elle me semble quand même un peu plus. Il y a plus de compétitivité, j'ai l'impression, entre les clubs qu'en Ligue 1, par exemple. Pour revenir sur l'Olympiakos rapidement, c'est vrai que le prochain match contre Nantes, il se passe à la dernière journée, je crois.
Oui, je crois bien, ouais.
À la dernière journée, il me semble qu'on aura quand même pris un certain rythme. On a des joueurs qui vont revenir, des joueurs clés de l'effectif. Hein. Je pense à Mvilla qui malheureusement n'était pas là et qui nous a fait son absence nous a fait beaucoup de mal hier. On a Marcelo qui j'espère va commencer à jouer d'ici quelques jours, voire semaines, et on aura emmagasiné un petit peu plus de rythme avec le championnat. Donc attention au match retour à l'Olympiakos. Vous risquez de pas trouver la même équipe. Tant mieux pour nous. Mais je pense que le groupe il est ouvert. Effectivement, la deuxième place va se jouer entre Nantes et l'Olympiakos, hein, je pense.
Oui, ça je suis assez d'accord là-dessus. Et c'est vrai que de toute façon un déplacement en Grèce c'est pas forcément évident. On n'a pas une équipe qui est habituée à ce genre de déplacement et en plus on n'a pas un effectif non plus avec une profondeur de banc incroyable. Donc il va falloir faire attention. Ouais, Jean-Charles, tu voulais rebondir là-dessus.
Ouais, c'était pour rebondir sur ce que tu as dit par rapport au premier quart d'heure de la seconde mi-temps. L'évolution aussi s'est faite par rapport au changement qu'il y a pu avoir avec l'entrée de Sissoko et de Simon, qui a fait du bien, hein, parce que les deux ont fait, enfin surtout Sissoko, moi je trouve qu'a fait une bonne entrée pour sortir de ce quart d'heure où effectivement on n'était pas au mieux. Après, pour revenir sur Olympiakos, pour répondre à la question, on joue le 3 novembre à Olympiakos. Moi, je pense que le match sera différent totalement et le rapport de force sera peut-être plus équilibré. Après, l'entraîneur, moi, de Olympiakos, sur sa façon de... Enfin, j'ai une puce, hein, très excitée sur le bord de la... Plus le temps à sauter, machin, qui a vraiment donné des conseils. Et hier, je pense que sur la prestation des coachs, il n'y a pas photo entre les deux. Notamment bah, avec le coaching payant, notamment sur le début de deuxième mi-temps. Mais bon, encore une fois, la victoire est méritée. Et puis sur l'image de Palois, pour revenir à la discussion d'il y a 3-4 minutes, moi, je n'ai pas vu. C'est sûr que Palois fait un geste pour se dégager. Maintenant, bon, est-ce que c'est sifflable ? Peut-être, mais je pense que le joueur grec en rajoute beaucoup trop aussi.
Je ne sais pas si, comment on fait pour partager un tweet, mais j'ai un tweet avec la vidéo de l'action de Palois, si jamais.
Tu vois le logo à côté, à droite du like, bah, tu cliques dessus et tu partages dans le space.
Voilà. Je mets juste quoi, une la vidéo en commentaire ou...
Bah juste, alors, tu partages le logo à droite du like et ensuite ça s'envoie directement dans le space. Ça te le propose dans le space à l'envoyer.
Mais ça ne pas le score.
Après, non, de toute façon, mais comme ça...
Je t'avoue, Vince, je ne sais pas le faire non plus. Donc,
voilà, c'est fait. Voilà.
Après, pour rebondir sur l'hypothétique faute de Palois, c'est sûr que faute ou pas faute, à un partout à la 92e, c'est une faute professionnelle du joueur d'Olympiakos que de rester à terre et de ne pas revenir défendre.
On est d'accord.
Ça, c'est inadmissible. C'est honteux. Enfin, moi, je comprends pas comment on peut faire ça. Enfin, à moins qu'il ait eu le nez cassé, mais c'est pas le cas. Après, on est tous d'accord là-dessus.
Ah, il est bien resté, je pense, je sais pas, je dirais une quarantaine, une bonne minute même au sol. Hein.
Ouais, non, c'est ça. Et surtout qu'on ne peut pas se dire que le match s'est joué là-dessus, quoi. On était dépassé.
Ah, mais complètement d'accord.
C'est dommage que ça se passe au final comme ça, mais c'est pas immérité. La victoire est complètement méritée, quoi.
Enfin, moi, je m'attendais à mieux, effectivement, pour revenir au débat d'Olympiakos. Je pense qu'ils vont monter en régime, même si j'ai un doute sur le coach. Et j'aimerais aussi faire rebondir sur Marcelo. Marcelo, bon, championnat grec, très bien, mais pour moi, c'est un joueur qui est vraiment sur le déclin. Je ne veux pas dire qu'il vient en pré-retraite à l'Olympiakos, mais je ne sais pas s'il y aurait une plus-value sportive sur ce joueur, quoi. Autant il a été très bon, mais ça fait 3 ans qu'il fait banquette au Real de Madrid, quoi.
Après, je pense que vous avez tous vu le match d'hier. En voyant notre bas gauche, c'est dur de faire plus mauvais que ça, quoi.
Ah, je défensivement, que, je sais pas. Hein.
Franchement, je pense que quand on voit la première mi-temps, vous avez joué que sur notre côté gauche. Et je pense que c'est là l'erreur du FC Nantes aussi. C'est qu'au début de la deuxième mi-temps, Guessant passe de l'autre côté et il a beaucoup plus de mal. Et avec les changements, avec l'entrée de Simon et de Sissoko, c'est Blas qui est passé à droite. Et de nouveau, pendant les 20-25 dernières minutes, il lui a fait l'amour au bac gauche. Et en première mi-temps, c'était pareil, parce que Guessant était beaucoup plus provoquant et jouait sur ce côté. Et en début de deuxième mi-temps, pendant les 15 premières minutes, il a joué de l'autre côté et il a eu beaucoup plus de mal aussi. Ouais.
Non, c'est un fait. Mais je ne suis pas sûr que Marcelo... et plus de jambes ou de capacité défensive. Bon, il est plus fort que l'autre, hein. Tout le monde est d'accord sur son potentiel intrinsèque, mais bon, avec ce qu'il a montré depuis 3 ans, ça reste quand même très complexe.
Ouais, après, est-ce qu'il vient pas aussi dans une optique de, comme Moussa Sissoko, d'encadrer peut-être certains joueurs de l'effectif et de les faire progresser, de leur apprendre un petit peu l'expérience des compétitions européennes. Il y a peut-être de ça aussi, quoi. Donc bon, de toute façon, on va suivre ça avec Yanis et avec Vass pour l'Olympiakos. Pour vous, les top et flop de ce match, alors je vais pas vous demander du côté nantais parce que vous connaîtrez peut-être pas suffisamment les joueurs, mais du côté grec en tout cas, qui vous mettriez en top et flop, Yanis et Vass?
Alors moi, côté nantais, je peux quand même donner mon avis si vous voulez. J'ai trouvé Guessant très intéressant, hein, sur son match, aussi bien au niveau de l'intensité que ses prises de balles, ses accélérations, franchement top joueur. Du côté de l'Olympiakos, le flop pour moi c'est le Moldave, hein, c'est Reapsiouk, notre arrière gauche, catastrophique. Et le top, si on peut parler d'un top dans l'équipe de l'Olympiakos hier, je dirais que Manolas a fait un match costaud dans l'axe derrière.
Ouais, c'est vrai que c'est des joueurs. Voilà, Manolas aussi, pareil, c'est un joueur qui est plus sur sa fin de carrière, mais qui apporte toujours. Moi, je l'ai trouvé effectivement assez intéressant hier, Manolas. Ouais. Vas, pour toi, top et flop côté grec.
Déjà côté Nantes, je dirais aussi Guessant. Moi, je connaissais pas du tout, et toute la première mi-temps, c'est lui qui nous a mis la misère pendant les 45 premières minutes. Top, assez contradictoire, mais je trouve que Koundé, donc un de nos deux milieux, il est dans sa lancée de son début de saison. Il fait un plutôt bon début de saison, mais malheureusement avec notre équipe, c'est que dès que Mvila est pas là, ou maintenant le deuxième Hwang qui était aussi blessé hier. Ben, on est obligé de jouer avec Bouchalakis au milieu. Et malheureusement, n'importe qui joue à côté de lui, ben, le milieu est perdu d'avance. Mais j'ai quand même trouvé Koundé plutôt intéressant et dans la lancée de son début de saison. Flop, Rabchouk, comme j'ai dit, je pense que tout le côté gauche, en fait, Massouras aussi, qui est vraiment dans une très mauvaise passe et qui apporte absolument rien à l'équipe. Donc c'est ce trio côté gauche, Rabchouk, Bouchalakis et Massouras.
Ok, mais merci pour vos avis. Du côté, nous, du côté Nantais, alors il y a Monsieur FIFA qui nous a rejoint, qui était déjà venu dans un space. Salut, est-ce que tu nous entends bien?
Oui, je vous entends.
Bon, super. Du coup, toi, tu voulais réagir aussi par rapport à ce match, et en même temps, je vais te lancer sur les top et flop, comme ça on demandera après à James et à Jean-Charles.
Alors, les flops, pour commencer, je mettrais Ganago et Moutoussami. Et en top, je mettrais Chirivella.
Alors, on t'entend très mal, je sais pas si t'as un souci de micro ou quoi. Et on a, top, on, ça grésille un peu ton micro. Ouais, voilà, je vais te laisser voir si... voilà, on va voir s'il arrive à régler. James, ouais, vas-y, tu levais la main, puis en même temps, top et flop pour toi.
Ouais, alors globalement, l'équipe a fait une plutôt bonne prestation hier. Individuellement, chacun a fait son jeu. Concernant Ganago, je le trouve pas vraiment bon à gauche. Pour moi, faut pas que ce soit une habitude de prendre en doublure de Simon à gauche ou tu vois, pour l'instant, vu que Simon est blessé, de le faire démarrer à gauche. Parce que pour moi, c'est vraiment un joueur de profondeur dans l'axe. Hein. C'est dans un système avec deux buteurs, par exemple, Mohamed et Ganago, j'aurais bien aimé. Et Guessant à droite. Mais sinon, je mettrais Merlin Chirivella en ex-aequo. En tant qu'homme du match, les deux ont été stratosphériques hier. Vraiment, surtout Merlin, je l'ai trouvé incroyable. C'est vraiment, on voit la différence, en fait, sans Merlin et avec Merlin. C'est le jour et la nuit. C'est vraiment ça. Et Giroto, Palois, très 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 solide. Palois, j'ai tellement aimé son match hier. C'est le Palois que j'aime, c'est lui que je veux tout le temps. Et sa frappe, putain, si elle était rentrée, ça aurait été incroyable. Mais voilà, sinon, Guessant, pas mauvais du tout aussi. Je pense que j'ai peut-être un peu plus dur avec lui, parce qu'au début de la saison, je l'avais dit que j'avais beaucoup d'attentes en lui, parce que pour moi, c'était pas un flop comme beaucoup pouvaient le dire, en mode l'arrivée. Pour moi, je pense qu'il a encore une meilleure marge de progression. Je pense qu'au fil des matchs, il peut vraiment devenir encore beaucoup plus performant qu'il l'est actuellement. Et sinon, très bonne prestation de sa part. Et Blas aussi très bon, double passeur décisif. Malgré tout, ses frappes, voilà quoi. On n'est pas en rugby, quoi. Mais sinon, c'était pas.
Ouais. Guessant, ouais, c'est un joueur qui marche à la confiance, quoi. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir reconnu et qui, là, a la confiance de Comboiré. Donc, je pense que petit à petit, ça va venir. Là, il commence à marquer des buts, en plus, des buts importants. Donc, je pense que ça va venir petit à petit et que...
Oui, que dire de la frappe intérieure du pied en pleine lucarne, là, sur le but refusé, c'était incroyable.
Ouais, c'est un bon joueur. Ça va... Je pense que ça va vraiment démarrer. Voilà, ça va vraiment démarrer. Pour lui, Jean-Charles, pour toi, top et flop.
Vous avez déjà quasiment tout dit. j'ai pas envie de ressortir des joueurs. Je pense que la prestation collective est plutôt très bonne.
Ouais.
Bon, Ganogo, moi j'ai vu que l'équipe lui a mis 3, je trouve ça vraiment très dur. Premier match titulaire, dur, contexte pas simple. Moi je les trouve très durs parce que il a navigué sur son côté. Moi j'étais content, alors comme disait James, de retrouver un peu Blas qu'on avait perdu quand même ces derniers matchs. Et je pense que les deux passes décisives vont lui faire du bien. Palois peut encore mieux faire, je pense, parce qu'il y a 2-3 fois sur des contrôles, des relances, mais ouais, belle prestation collective. Tout le monde était à l'unisson, on va dire, hein, et impressionné par le retour de Merlin, c'est vrai, parce qu'il n'avait pas joué quand même depuis 2 semaines.
Ouais.
Et puis j'espère surtout qu'ils seront bien en forme tous dimanche, hein, pour revenir au premier débat avec Sébastien Piocel, parce que hier le coach qui a plutôt été bon, moi ce que j'aurais aimé c'est qu'il pianote un petit peu plus sur la fin de match, même si ça lui donne raison avec cette victoire. Mais on a fait que 2 changements hier, ce qui me semble assez peu par rapport à ces matchs rapprochés. Mais un petit flop pour Comboiré donc sur les changements, même si d'un côté il a eu raison, mais déçu de par rapport au futur match quoi. Peut-être.
Ouais, James, vas-y.
Ouais, je voulais juste terminer par. J'ai oublié de le souligner, mais la rentrée de Sissoko, vraiment, il a bonifié le milieu de terrain. Il a apporté vraiment son apport offensif qu'on lui connaissait à Tottenham. Et là, contrairement à ses débuts, contre Angers, etc., et les matchs amicaux cet été, j'ai trouvé vraiment performant. Et certaines fois, je me demandais si c'était Neymar ou Sissoko, notamment sur son sombrero. Mène une action de but. J'ai vraiment bien aimé comment faire.
Oui, et puis alors il y a, c'est dommage, Morgan n'est pas là, mais je sais qu'il va écouter le podcast, donc il va écouter le podcast parce que c'est lui qui le met sur Spotify et sur Google Podcast, voilà, et sur les plateformes de podcast. Mais du coup, je vais lui faire plaisir, je pense, parce que moi j'ai bien aimé aussi le match d'Apia hier. D'ailleurs, je sais plus. Je crois que c'est Nicolas Fradin qui a mis. Je connais pas ce Denis Apia, mais je le trouve plutôt pas mal. Et j'ai trouvé l'humour assez sympa parce que c'est vrai que Denis Apia, très souvent on le critique, moi le premier d'ailleurs. Mais là, ça fait 2-3 matchs où il est un peu mieux. Et là, hier soir, moi, je le trouvais vraiment. Vraiment, il faisait pas tâche quoi, par rapport aux autres.
Talonnade là en première période, sa talonnade avec sa frappe. Ah, c'est incroyable, hein, mais oui, en fait, je pense que Apia aussi marche beaucoup à la confiance. Je pense que là, depuis sa prestation à Strasbourg, il a fait une bonne prestation à Paris. Et là, à l'Olympico, s'il ne déçoit pas non plus. Donc, je pense que c'est vraiment ça, un joueur qui a besoin de confiance. Et là, on voit qu'il est en pleine confiance. Donc, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et peut-être que s'il continue ainsi, on n'aura pas vraiment besoin de 111 dès maintenant, dès aujourd'hui. Et ça pourrait être cool.
Ouais. Quoi qu'il en soit, on a besoin de 111, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais
je suis d'accord, je suis le premier à militer pour ça.
Oui. Mais la bonne passe d'Apia est bienvenue. Il mériterait un but sur les prochains matchs, en tout cas, parce que ça fait 2-3 fois là, qu'il n'est pas loin. Oui. Ça serait une belle récompense.
Ouais, c'est vrai qu'il y a une volée, là, je ne sais plus contre qui c'est, mais.
Strasbourg. Non,
je sais pas. Aussi, ça passe au PSG, ça frappe.
Ouais, je sais plus. Ouais, mais oui, Strasbourg. Non, moi je pensais à celle de Strasbourg.
Il fait un poteau à Strasbourg.
Ouais, voilà.
Ah oui, ouais.
Il y a ça. Hier, c'est vrai qu'il est pas loin d'en marquer un. C'est vrai qu'il monte en puissance.
Il rage la transversale.
Oui, aussi, ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il monte en puissance et que ça peut être intéressant pour nous de l'avoir et de compter sur lui parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Seb Piocel. C'est vrai qu'à droite, entre Corchia et Fabio, des fois, c'est un peu compliqué. Si Apia avait la bonne idée d'être dans une bonne forme, ça pourrait être que sympa pour nous.
D'ailleurs, j'avais une question aussi. Je voulais votre avis là-dessus. Quand je vois l'animation qu'on a proposée offensivement et défensivement, etc., et les prestations un peu moins bonnes de notre équipe hier, je me pose la question si un 4-4-2, ce ne serait pas une bonne solution, je trouve, à Nantes, pas forcément sur tous les matchs, mais pour le moment, je trouve que, par exemple, Mohamed Ganago, Guessant à droite, Blas Chirivella au milieu et Simon à gauche, avec l'apport offensif, mais aussi défensif des deux latéraux comme hier, je pense que ça peut être une bonne chose parce que Ganago à gauche, j'ai vraiment du mal et je pense que ce serait bête de s'en priver de ses appels, de ses profondeurs, etc.
À droite, tu mettrais qui ?
Et plutôt en BU droit, quoi, attaquant droit.
Du coup,
attaquant gauche, à droite, Guessant. Attaquant droit,
après,
Ganago.
Milieu de terrain, Blas, Chirivella, alors ça serait très créatif, mais défensivement, ça serait peut-être un peu léger, quoi. Il manquait
ouais, peut-être. Mais après, prenez Camboiré. Camboiré, au bout de la deuxième mi-temps, il change de schéma tactique et pas sur un truc plus défensif. Généralement, un 4-4-2 en liaison avec une pointe basse, ou ça dépend, 4-2-3-1, etc. Donc, mais vraiment, je pense au début, sur une première mi-temps en plan de jeu de démarrage, pardon, et ben, je pense que ça peut être une bonne chose. Parce qu'avec l'énergie qu'on mettrait, je pense qu'on peut en mettre pas mal comme ça, avec cette animation offensive, pardon.
Moi, je suis fatigué. Ouais, alors, après, ouais, je suis un peu moins partisan de ça, parce qu'on le voit que ce qu'il y a comme... là où on a des difficultés, c'est peut-être entre la ligne défensive et le milieu de terrain, il y a quand même assez souvent un espace. Donc, si on joue avec deux joueurs créatifs au milieu de terrain et un peu moins récupérateurs, et c'est pour ça aussi que Moutou Sami, alors moi, je suis pas forcément fan de Moutou Sami, mais n'empêche que dans la récupération, je trouve qu'il est très intéressant. Donc c'est bien aussi de l'avoir quand on n'a pas Sissoko par exemple, qui lui a la possibilité de peut-être de faire les deux, de récupérer et de pouvoir amener un petit
peu. Oui, sur ce point je suis d'accord, mais je pense que comme je l'ai dit sur un match entier, mais je pense qu'au moment où on a avec notre pleine énergie et la hargne elle est vraiment là, l'envie on l'a vu hier à la première mi-temps, ils étaient inexistants offensivement, et en vrai si tu regardes le match de Chirivella, Giroto et Palois, ils étaient relativement hauts. Et puis, ils ont assuré ce...
Mais tu avais toujours l'écart entre les trois, en fait. Tu avais toujours l'écart entre la ligne défensive et le milieu.
Si l'animation défensive continue ainsi, comme on le fait depuis quelques matchs, bah, en vrai, on ne peut pas proposer mieux avec nos solutions, nos profils défensifs. On n'a pas de joueur qui est vraiment numéro 6. Tu vois ce que je veux dire ? On n'a pas de...
Ouais, alors après, 4-2-3-1, moi, ça me paraît un bon compromis, parce qu'en 2,
tu serais défend, non, ce serait Chirivella et Sissoko en
voilà, milieu. Par exemple, ouais, c'est Sissoko et Chirivella, et puis devant Blas en meneur, à droite Guessant, à gauche Simon, et devant avoir entre Mohamed et Ganago. Pour moi, Mohamed a une petite longueur d'avance malgré tout, mais je suis plus partisan de ça. En plus, ça permettrait d'exploiter encore plus Simon sur le côté gauche. Moi, il y a toujours un truc qui m'embêtera de toute façon, hein, quand on jouera une défense à 4, c'est d'avoir Quentin Merlin latéral gauche. On voit encore hier l'apport de Quentin Merlin. Imaginez juste dans un rôle de piston où là, il aurait la liberté de pouvoir monter encore plus haut. Moi, ça serait un régal de le voir, de le revoir encore dans ce rôle de piston. Je trouve que
on
c'est
va
dommage
de le faire quand on aura un piston droit, parce que si on le fait actuellement,
oui. Je pense que c'est difficile. Ah non, là on prend le bouillon. À droite, là on peut pas le faire. Vas, on va juste te saluer aussi, puis on va voir un petit peu avec toi les prochains matchs de l'Olympiakos. Comment ça se passe toi en championnat là? C'est des matchs abordables qui arrivent, ou c'est des gros matchs pour vous?
Je pense pas qu'on a de gros matchs. Puis bon, quand on voit les équipes grecques en ce moment, que même si on va, disons, on aurait eu un derby ou quoi que ce soit, bah, on est déjà la dernière équipe grecque en lice en Europe. Je pense que le football grec est en train de régresser de plus en plus. Donc, bah, au final, de gros matchs, il n'y en aura pas, mais il faudrait être prêt pour absolument tous les matchs, vu le niveau qu'on a proposé hier, quoi. Parce que malgré tout, même si on joue comme hier, même en jouant une équipe abordable en championnat, ça ne sera pas facile.
Ouais. T'es confiant quand même pour la suite de la saison? Tu penses que ça va prendre?
Bon, j'ai pas de doute pour le championnat. Je pense que on a des joueurs qui sont une certaine classe au-dessus des autres joueurs et qui finiront comme les deux dernières années. Parce que les deux dernières années, clairement, on était vraiment pas bon dans le jeu non plus. Mais en championnat, on a des joueurs qui sont tellement au-dessus des autres qui fait que c'est les individualités qui nous font gagner des matchs. Pour l'Europe, c'est dur à dire. Je pense qu'on peut pas vraiment prendre le match d'hier comme référence, parce qu'on avait nos deux meilleurs éléments au milieu qui étaient absents. Donc on savait que ça allait pas très bien se passer. Maintenant, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi mauvais que ça. Mais confiant, je dirais pas confiant, mais il y a peut-être quand même un peu d'espoir si notre équipe est au complet.
Bon, mais en tout cas, on vous souhaite que ça se passe mieux déjà la semaine prochaine contre Fribourg, et puis Nantes premier, Olympiakos deuxième, pourquoi pas, ça serait cool aussi quand même.
Ben, franchement, ça me ferait plaisir que on joue la première place au match retour sur le dernier match.
Allez, et ben pourquoi pas, on en reparlera. Mais... si tu veux venir pour le space, du coup pour le match retour, ça sera avec grand plaisir en tout cas.
Pas de souci. Par contre, vous êtes prévenu que s'il y a une place de qualification ou de première place qui se jouera en Grèce, il y avait une superbe ambiance hier, rien à dire. Mais je pense que ce sera tout aussi pareil à ce match retour, s'il sera décisif en tout cas.
Oui, c'est sûr que si vous jouez plus rien ou quoi, oui, c'est sûr que ce sera peut-être un peu moins la folie, quoi. Ouais.
Voilà.
Écoute, en tout cas, on va suivre ça de près et puis on espère qu'il y aura quelque chose à jouer pour les deux équipes lors du match retour. Ça serait cool, ce serait bien d'avoir une belle ambiance aussi de votre côté.
Clairement. En tout cas, merci pour l'invitation. Félicitations encore pour hier et on se verra peut-être pour le match retour.
Ça marche. Merci à toi d'être passé et puis n'hésite pas pour le retour. Il y aura le space de toute façon pour l'avant-match et pour le débrief. Donc tu auras ta place. Il y a pas de souci. On te la garde au chaud.
Merci pour le fair play en tout cas.
Pas de souci.
Allez, salut, à la prochaine.
Au revoir.
Du coup, on va nous terminer très rapidement. Je voudrais votre avis sur. C'est pour ça que je voulais pas non plus le garder parce que je pense qu'il aura pas forcément d'avis là-dessus. Mais je voudrais votre avis à tous les deux, James et Jean-Charles, sur le match de dimanche. Alors même s'il y aura de toute façon le space d'avant-match, qu'on fera logiquement samedi ou dimanche. De toute façon, voilà, on y reviendra dessus. Pour vous, ce match contre Lorient, vous êtes là comme ça aujourd'hui. Vous êtes plutôt confiant ou? Et on y a laissé des plumes quand même hier soir contre l'Olympiakos et donc ça risque d'être très compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je vais bien commencer. Personnellement, je pense que le match contre Lorient va être compliqué. Lorient sont dans une bonne forme depuis le début de saison. Je pense qu'on va avoir des cartes à jouer aussi. On n'est pas exempt de pouvoir gagner ce match, mais avec ce match-là qui a été vraiment très 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 compliqué en termes d'intensité, de niveau de jeu, c'était, je pense, assez fatigant pour les joueurs. Je pense que la remise à niveau va être assez courte et reste à voir. Mais je pense que à domicile, à Lorient, dans leur forme actuelle et tout, ça va être compliqué d'aller chercher une victoire. Je pense pas que l'effectif sera au rendez-vous en termes de forme. Je l'espère. Je pense que c'est une victoire qui nous ferait du bien parce qu'on va enchaîner sur des gros matchs après Lorient. Et je pense que ce sont des trois points qui sont, tu vois, typiquement en fin de saison, tu te dis. On a oublié ces trois points-là, on les a laissés, etc. Et ça te fait du mal, en fait. Donc, je pense qu'il faut vouloir la victoire, mais si on fait un match nul, c'est pas un scandale et ce serait plutôt un bon résultat au vu du contexte actuel. Allô?
Oui.
Ouais,
Aymeric, t'es là?
Aymeric, on t'entend plus.
Oui, pardon. J'attendais patiemment ton avis, Jean-Charles, pour rebondir sur ce que disait James. Ah, okay. Pardon, j'avais coupé.
Silence de cathédrale. Je vais m'appuyer sur ce que j'ai vu la saison dernière sur des clubs européens qui laissaient beaucoup d'énergie le jeudi, mais qui arrivaient malgré tout à faire de bons matchs le dimanche. Donc je vais gager sur ça. Après, on avait déjà eu la réflexion ensemble, Aymeric, de se dire on avait peur de Toulouse avant qu'ils viennent à la Beaujoire il y a deux semaines. Ouais, Toulouse dans la lignée de leur montée en Ligue 1. Faut pas avoir peur de Lorient, même si effectivement ça joue plutôt pas mal. Mais nous aussi, on est sur une bonne dynamique. Donc je veux pas entendre parler de défaite. Un nul, ça serait un peu décevant. Donc il faut qu'on aille chercher la victoire absolument, quoi. Avec le, comme disait Sébastien Piocelle, même s'il n'y aura pas beaucoup de changements, mais il va en faire 2-3. Et puis je pense qu'il va attendre le dernier moment pour connaître la forme de chacun. Parce que les joueurs ne mentent pas là, hein. Il y a des matchs très rapprochés. Après, il y a un long déplacement à Karabagh. Mais on le voit, avant de penser à Karabagh, il va vraiment penser à Lorient. Parce que hier, ce que je disais il y a une petite quinzaine de minutes, j'aurais aimé qu'il fasse plus de rotation par rapport à ce fameux match de demain. Mais il va tout faire pour gagner à Lorient et comptablement, il n'y a pas vraiment le choix non plus, quoi. Donc moi, je vois une victoire de Nantes, pas simple, mais je pense que je les vois gagner peut-être sur un petit but d'écart.
Ouais. Ah oui, je suis d'accord avec toi. Il faut, partir du principe que, c'est le genre de match qu'on doit gagner, quoi. Comptablement, c'est le genre de match qu'on doit gagner. Alors après, c'est sûr que ça tombe juste après l'Olympiakos, mais on peut pas se dire que, contre l'Orient, on va se contenter d'un nul ou pire d'une défaite. Faut y aller pour le gagner. De toute façon, je pense que Comboiré ira dans cet état d'esprit. Voilà, ça, c'est une certitude. Ouais, James.
Ouais, personnellement, c'est pas ce que j'ai dit, mais je pense que si j'ai dit, si on tombe sur un os comme Lyon l'ont fait hier, ils ont joué hier Lyon ou avant-hier,
le 3-1 c'était mercredi,
mercredi soir. Si tu vois ce que je veux dire, si ça se reproduit un peu dans le même sens, je dis que c'est pas un scandale. Tu vois, il y aura un contexte, il y aura des excuses un peu à trouver à l'équipe. Mais oui, pour moi aussi, la victoire elle est nécessaire et il y a pas de doute là-dessus. Quoi.
On part pour gagner. Ouais, il faut qu'on confirme. Il faut qu'on confirme de toute façon notre bonne forme. Tu disais, Jean-Charles, on est nous aussi sur une bonne série, même si il y a pas que des victoires. Il y a dans l'état d'esprit, dans le collectif, il y a de très bonnes choses. Donc autant s'en servir de cette victoire aussi hier.
Après, je sais pas s'il y en a qui ont vu le match de mercredi soir de Lorient. Moi, je l'ai pas vu du tout. Hein. Après, ils ont pas volé leur victoire sur ce que j'ai lu, mais j'ai pas plus d'infos que ça sur le match. Donc après, à voir le contenu. Mais bon,
ils ont déjà mis 3 buts. Lyon n'était pas au rendez-vous. Je pense que Lyon, les supporters, etc., et même l'entraîneur attendait un meilleur Lyon que ça. Individuellement, c'était compliqué. Genre, ils avaient du mal à se trouver sur le terrain, etc. Un peu comme l'Olympiakos, ils n'arrivaient pas trop à enchaîner les passes. Et au milieu de terrain, c'était un peu brouillon, techniquement et au niveau de la possession, quoi. Et Lorient, on s'est servi de ça, un peu de cette force, et ils ont clairement dominé le match et ils l'ont pas volé, quoi, comme tu as dit.
Ouais. Vas-y, Jean-Charles, tu voulais rajouter quelque chose ?
Non, je regardais, mais a priori, il y a pas mal de tensions à Lyon. Là, je voyais que la Cazette, il en est venu aux mains avec un coéquipier à l'entraînement. Donc. Sur une dépêche sur un site. Mais bon, non, il faut qu'on aille gagner. Et moi, je pense même que si on fait une belle entame, on peut gagner avec plusieurs buts d'écart parce qu'on doit surfer sur ce match. Si on ne surfe pas sur ce match, c'est que les joueurs ne mettront pas ce qu'il faut. Et ça ne sera pas que physique, à mon sens. Ça sera aussi dans la tête. Et là, c'est comme Boré, je pense.
On a le compte Toulouse. Ça va faire comme Toulouse. On va un peu patauger et galérer jusqu'à la première mi-temps et puis après, deuxième mi-temps. On va avoir un peu du mal à se lancer et puis ça va être lancé et la machine à but, moi je dirais Mohamed Ganago et descend sur 3-2.
Juste pour petite info, le compte Formation Nantaise, si vous voulez d'ailleurs le suivre, il a de très très bonnes infos sur les 19 et sur l'équipe réserve. Il vient de publier le groupe pour ce week-end de la réserve avec Rémi Descamps et Mohamed Hachi qui sont dans le groupe de la réserve. Donc voilà, donc c'est peut-être une info pour Mohamed Hachi.
Mohamed Hachi.
Ouais, Mohamed Hachi, alors c'est surtout qu'on a besoin de temps de jeu. Il justifie, formation en thèse justifie que c'est le besoin de temps de jeu. Donc,
justement, là, c'était peut-être l'occasion avec un retour en Europa League face à Lorient. Il aurait pu avoir son temps de jeu, là, clairement. Enfin, je pense que c'était l'occasion un peu.
Mais c'est pas apparemment comme ça que l'ont vu Stéphane Ziani et Antoine Comboiré. Voilà,
ouais.
Alors par contre, il y a ni Samuel Yepi ni Bridge Ndiu dans le groupe. Donc voilà, est-ce qu'on aura une chance de les voir dans le groupe?
Ndiu, non.
Ndiu, j'y crois pas des masses non plus, mais en tout cas, il n'est pas dans le groupe de la réserve. Donc,
Hachi, je pense que tu as raison sur ce qu'il dit. Je pense que c'est pour lui donner 90 minutes et il va revenir très vite dans le groupe.
Oui, je pense aussi. Ouais. Je pense que c'est dans cette optique-là. Après, c'est vrai que je rejoins un petit peu James sur ça. C'est dommage du coup de ne pas l'avoir mis, par exemple, titulaire ce week-end avec la une et puis le faire sortir, par exemple, à la 60e ou 65e. Ça aurait été intéressant de le voir, je pense, titulaire, quoi, pour voir un petit peu.
C'est un peu tôt, je pense. Il y a quand même pas mal de pression sur ce match.
Pour le moment, satisfaisant. Pour le moment,
ouais, mais c'est ce que pense James, c'est ce que pense Antoine Comboiré, hein, ce que dit Jean-Charles, c'est ça, c'est que pour le moment, Mohamed Hachi, c'est encore un petit peu tôt. Alors, on n'est peut-être pas du même avis, d'ailleurs, on n'est pas du tout du même avis, parce que moi, je pense comme toi, mais en tout cas,
Comboiré l'a dit, ça ne va pas le griller.
Voilà. Bon, de toute façon, on va suivre ça de très très près. Match dimanche à 15h à Lorient. Alors habituellement quand on joue à l'extérieur on fait l'avant-match juste avant le coup d'envoi, comme ça on a les compos et tout ça. Là, comme c'est Lorient et que potentiellement il y a pas mal de supporters qui vont aller voir le match à Lorient, Peut-être qu'on le fera la veille. Donc voilà, de toute façon, on dira ça assez vite. Juste pour une petite info, puisque James et Jean-Charles, vous êtes maintenant, vous êtes là régulièrement dans les spaces. Ce soir, on était le deuxième space le plus écouté de tous les spaces qui étaient en direct. Donc c'est plutôt quand même cool, non? C'est une belle reconnaissance. C'est une belle fierté.
Ouais, c'est vraiment cool. Bravo, ouais. bravo. Voilà, c'est cool d'avoir des invités comme Feb et le speaker, Jean-Charles.
Ouais.
C'est cool.
Ouais. Mais on aura comme ça de temps en temps des gens qui viendront. Voilà, je vais pas trop en dire parce qu'on sait jamais si au dernier moment ils se défilent. je vais pas donner de nom, mais il y a notamment des journalistes que tout le monde connaît ici dans le space et qui suivent pas forcément l'actualité du FC Nantes, mais qui suivent l'actualité du football. Donc il y aura des journalistes comme ça. Il y a des anciens joueurs aussi du FC Nantes comme Sébastien Piocelle qui viendront petit à petit dans les spaces. Donc voilà, faut garder un œil sur ce space là parce qu'on va évoluer un petit peu dans les intervenants, dans les invités qu'on va avoir. Voilà, ça sera toujours cool. Là par exemple, Sébastien Piocelle, c'est cool d'avoir un avis comme le sien. Voilà. Jean-Charles, toi t'as connu Sébastien Piocelle?
J'étais à la finale de la Coupe de France en 99 quand ils ont gagné 1-0 sur un pénalty de Monterrubio. Voilà.
D'accord, ouais, donc oui, ça te parle.
Ça me parle. Non, mais Piocelle, après, bon, Piocelle, il avait un niveau à son âge supérieur, à mon sens, à Toulalan et à Deschamps. Et il s'est fait un genou, les croisés. Et il est passé à côté d'une très, 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 très belle carrière, malheureusement, à cause de cette blessure. Parce qu'il était très, très, très fort, Piocelle.
Ouais, et puis c'est quelqu'un de droit et on le voit encore aujourd'hui parce qu'il est encore supporter du FC Nantes et il continue de militer pour que le FC Nantes revienne vraiment à son niveau. Donc voilà.
Je peux faire un aparté. T'as pas de nouvelles de 111 à tout hasard parce qu'on entend qu'il fait grève le garçon.
Oui, alors j'en discute avec des supporters messins et j'ai eu là récemment un agent avec qui je discute un petit peu. Il y avait un bras de fer qui avait commencé entre 111 et la direction de Metz, qui ne veut pas le laisser partir. Hein. La direction de Metz ne veut pas le lâcher, veut tout faire pour qu'il continue et qu'il reste, mais apparemment 111 est bien décidé à partir. Donc je pense qu'il va y avoir du nouveau dans les prochains jours, prochaines semaines. Voilà, je pense que c'est pas fini, que le FC Nantes va revenir un peu à la charge et qu'il y a moyen de le voir. Voilà, je dis pas que ça sera fait, et je dis pas que ça va se faire, mais j'y crois. Ouais, j'y crois plus que même la fin du mercato. C'est pour dire. Voilà.
Ok.
On va suivre ça de toute façon comme d'hab. On suit West France, David Filippo et Jean-Marcel Baudou, Jean-Marcel, j'allais dire Rengouat, mais non, ça c'est Simon. Voilà, on suit ces gens-là. Ils vont nous donner des infos. Contrairement à ce que certains peuvent dire, la presse locale travaille très très bien. Donc voilà, faut pas hésiter à suivre de très près ce qu'ils vont dire dans les prochains jours. Du coup les gars, merci pour ce stream, ça c'était cool. C'était cool de parler un peu Europa League avec des supporters de l'Olympiakos. J'espère que contre Fribourg et Karabakh, on en aura. Bon, Karabakh, ce sera peut-être un peu plus dur d'aller chercher des supporters de Karabakh. Mais bon, on va.
En vrai, je ne pense pas, parce que la dernière fois, il y avait les groupes, là, le tirage des groupes, et il y avait pas mal de supporters de Karabakh dans les commentaires du post-FC Nantes qui affichaient les groupes et qui sont de expatriés en France et qui supportent toujours Karabakh. Donc je pense qu'on va pouvoir en trouver, je pense, s'ils sont volontaires de leur côté.
Sinon, il faudra trouver un traducteur, Emeric, tu te dévoues pour parler.
Ouais, je peux essayer.
Mais je sais pas s'il y a des supporters nantais d'ailleurs qui vont y aller, parce que j'ai regardé tout à l'heure là, sur la carte, mais c'est quand même, il y a une sacrée distance. Hein.
Ah, j'ai des amis qui y vont, ils passent par Istanbul, ils font escale à Istanbul et après ils font Istanbul-Bakou. Ils arrivent vers 5h du mat, 6h là-bas, donc ça va être compliqué de passer la journée à Bakou, qui n'est pas y a quoi à faire. Mais...
Surtout que là maintenant, depuis, ils ne peuvent plus survoler l'Ukraine, donc le voyage a dû se rallonger, à mon avis, d'une bonne heure.
Ouais, 10 heures de route à peu près.
10 heures, oh là 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 là.
Avec les escales aussi.
Il ouais, faut vraiment pas y aller que pour le match, quoi. Faut y rester 3-4 jours quand même, quoi, parce que sinon ça fait long pour un match, quoi. Ouais. Enfin bon, de toute façon, voilà, on va voir un petit peu si. Mais je sais qu'il y aura, la tribune noire là-bas. Pas que la Brigade Noire d'ailleurs, mais les autres clubs de supporters aussi. Je pense qu'il y en aura, donc ça sera de toute façon sympa à suivre. Bon, mais on se retrouve samedi, donc demain ou dimanche pour le l'avant-match face à Lorient. Là, on aura des supporters de Lorient avec nous, donc on pourra en parler de ce match-là. Et voilà, et sinon, ben, bon week-end, et puis à très vite pour l'avant-match contre Lorient. Salut les gars.
Merci, ouais, merci pour la disponibilité. Bravo Émeric.